À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Le podcast.
Jusqu'à très récemment, jamais je n'avais envisagé que nous puissions manquer d'eau en France. Les restrictions me semblaient ne devoir concerner que les pays de l'autre côté de la Méditerranée, à la rigueur le sud de la France en plein été. Mais voici qu'en 2023, plusieurs communes des Pyrénées ont été privées d'eau du robinet au printemps et ont dû être ravitaillées en eau par camion. Et ce, après une année 2022-2023 particulièrement plus chaude et plus sèche que la normale. Parallèle, les conflits d'usage et les contestations de projets concernant cette ressource, comme les méga-bassines à vocation agricole ou les retenues collinaires montagnardes pour la neige artificielle, se multiplient. Alors, faut-il imaginer qu'on pourrait manquer d'eau en France dès demain ? Comment garantir l'accès à cette ressource vitale et organiser son partage équitable entre les usages agricoles, industriels, domestiques ou de loisirs ?
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
De l'eau, de l'air, la vie.
Pour évoquer ce sujet, j'ai décidé d'interroger Willy Lewis, directeur général de la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne, basée à Tarbes. Dans une région marquée par une hausse rapide des températures et une augmentation des épisodes de sécheresse sévère, cette structure publique est chargée de gérer l'eau en rivière, dans un contexte où les besoins excède la ressource.
On me pose souvent la question, est-ce qu'on manque réellement d'eau en France ? Y a deux manières de répondre à la question. Si on s'en tient au niveau de précipitation qu'on a encore en France de manière assez régulière, la réponse est non, on ne manque pas d'eau. Y a beaucoup de précipitations, il pleut beaucoup en France, de l'ordre de pas tout à fait 500 milliards de mètres cubes par an, presque un mètre d'eau. Un mètre d'eau par an sur le territoire français en moyenne, c'est énorme. En revanche, la ressource disponible, celle qu'on est capable de mobiliser pour satisfaire les usages, cette ressource disponible peut manquer à certains moments, à certains endroits. Est-ce que c'est nouveau ? Pas tout à fait. En revanche, ce qui est nouveau, c'est sans doute la prise de conscience, compte tenu des deux épisodes de sécheresse qu'on a connus en 2022 et 2023 et qui ont accentué ou qui ont mis au jour plutôt la fragilité de certains territoires au regard de la disponibilité de la ressource. Vous évoquiez à l'instant certains territoires des Pyrénées, effectivement, les Pyrénées orientales en particulier, ont été extrêmement handicapé par le manque de précipitations.
Toujours pas de pluie importante sur notre département, quelques gouttes seulement cet automne. Nos cours d'eau toujours évidemment en alerte renforcée. Alors, que faire ?
On a donné un pack par personne pour la semaine.
Ce rationnement concerne 4 villages, 3500 habitants, qui demain matin ne boiront plus l'eau du robinet.
Pourquoi les Pyrénées-Orientales se retrouvent dans cette situation ?
Alors pourquoi ? Parce que en fait, on a des sécheresses marquées depuis 2017. Hein. 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été des années de sécheresse historiques, à chaque fois avec un scénario totalement différent. Mais en 2021, on a vécu une année particulièrement pluvieuse sur toute la France, sauf sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et le Var. Et donc en fait, on se rend compte que c'est vraiment la seule zone qui, depuis 7 ans, n'a quasiment pas une seule goutte gouttes de pluie. Le stress hydrique est chronique et donc ça commence à se voir aujourd'hui puisqu'il n'y a plus d'eau dans les nappes. On arrive à la fin du scénario.
Elles n'ont donc plus d'eau dans leur nappe phréatique, c'est ça?
Non.
On est arrivé au bout de la nappe phréatique.
Exactement. En fait, le niveau d'eau est à 30 cm au bout, au-dessus du forage.
Il est à 30 cm d'eau au-dessus de la pompe.
Il vaut mieux quand même éviter d'aller chercher cette eau.
Elle est boueuse, elle est pleine de...
Elle est boueuse, elle est pas potable et puis ouais. De toutes les façons, on arrive à la fin du bal. J'ai envie de dire que là, c'est vraiment le scénario le plus extrême qu'on puisse avoir.
On a pris donc hier un arrêté de restriction qui fixe les modalités de gestion de l'eau quantitative jusqu'au 13 juin pour limiter les usages qui sont moins prioritaires afin de sécuriser les usages prioritaires. Les usages prioritaires, c'est quoi? C'est l'eau potable, la sécurité, sécurité incendie, sécurité sanitaire, et puis c'est limiter au maximum les impacts, notamment les impacts sur l'environnement et sur les impacts économiques et sociaux.
Se préparer à des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds, tout en préservant la ressource en eau, cette commune de l'Hérault y travaille depuis près de 15 ans. La ville a massivement investi dans la réparation de ses canalisations et dans la chasse aux fuites. La station balnéaire dépend d'une seule nappe phréatique. Alors, pour qu'aucune goutte d'eau ne soit perdue, la municipalité va encore plus loin dans les économies. Fini les douches publiques. Pour éviter une trop grande pression sur la nappe, la ville a donc banni l'arrosage public, planté des espèces peu gourmandes en eau et s'est lancée dans un chantier d'envergure pour enlever une grande partie de l'asphalte. En 5 ans, Port-Iragne a réussi à baisser sa consommation d'eau de 30%, une des villes les plus économes de France.
Cette eau de boisson, hein, c'est 1% de la consommation humaine de l'eau. Donc on voit à quel point c'est infime, mais en réalité, c'est ce qui nous reste, nous, pour rester en vie. Donc c'est essentiel et c'est sur tous les autres postes de consommation qu'il va falloir agir en urgence.
On n'a jamais fait trop attention à ces choses-là. Je pense que c'est une erreur.
On a cette idée, parce que c'est un bien commun, que c'est une ressource gratuite et infinie. Or, ce n'est ni une ressource gratuite, ni une ressource infinie en réalité.
Non, l'eau n'est pas une ressource infinie, même en France. Selon une étude du ministère de la Transition écologique, le capital d'eau naturel de la France a diminué de 14% entre 2002 et 2018, par rapport à la période 1990-2001. Au plus fort de la sécheresse de 2022, 93 départements ont été soumis à des restrictions d'eau totale ou partielle et 700 communes ont connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Et pourtant, il continue de pleuvoir suffisamment. Alors comment expliquer ce problème de disponibilité de la ressource?
On disait à l'instant qu'il pleuvait encore beaucoup en France, effectivement. Cette eau qui tombe du ciel, qu'est-ce qu'elle devient? Une grande partie s'évapore. On considère que plus de 50% aujourd'hui des précipitations se transforment en vapeur et s'évaporent. Ce qui reste sert aux plantes. Et environ 40% de l'eau qui tombe du ciel est utile aux cours d'eau, que ce soit les cours d'eau superficiels ou les cours d'eau souterrains, donc les nappes ou les rivières. La ressource disponible, c'est effectivement l'eau qu'on va avoir dans nos rivières, c'est l'eau qu'on va avoir dans certaines nappes phréatiques, et c'est l'eau qu'on va être capable de stocker, soit de manière naturelle, soit de manière artificielle. La question du stockage de l'eau est sans doute au cœur de l'enjeu dont on discute aujourd'hui.
Quand le soleil réchauffe la Terre, la température de l'eau, des rivières, des lacs et des océans augmente. Cela fait s'évaporer une partie de l'eau dans l'air qui devient alors un gaz qu'on appelle la vapeur d'eau. Cela s'appelle l'évaporation. Plus la vapeur d'eau s'élève dans le ciel, plus elle refroidit, ce qui la fait se transformer en gouttelettes d'eau liquide. C'est ainsi que se forment les nuages. Ce phénomène s'appelle la condensation. Quand beaucoup d'eau se condense et que l'air ne peut plus retenir toutes les gouttelettes, l'eau retombe sur la Terre. C'est ce qu'on appelle précipitation. Toute l'eau qui retombe sur la Terre va être collectée de différentes manières. On appelle cette étape la collection. L'eau qui retombe dans les océans, les lacs et les rivières va à nouveau s'évaporer et démarrer un nouveau cycle. Quel que soit l'endroit où tombe cette eau, elle se recycle encore et encore et encore. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. C'est ainsi que Dame Nature recycle astucieusement l'eau.
L'enjeu pour transformer l'eau qui tombe du ciel en ressources disponibles va consister à la stocker. Pour la stocker, soit on laisse faire la nature. Elle fait ça très bien, sous différentes formes. La neige qui tombe, par exemple, est une solution de stockage assez fabuleuse. Mais les nappes phréatiques aussi, évidemment, sont des stockages naturels très intéressants. Les glaciers l'ont été pendant très longtemps. Je parle au passé parce que on n'a quasiment plus de glaciers. Dans les Pyrénées, il n'y en a quasiment plus. Dans les Alpes, il y en a de moins en moins. Là, on n'est pas sur un stockage annuel comme avec la neige. On est sur un stockage millénaire qui est en train de s'épuiser. Et une fois qu'on parvient, grâce à ces différentes formes de stockage, y compris les stockages artificiels, des lacs, des retenues, des barrages que l'on a créés, à mobiliser de la ressource, tout le travail consiste ensuite à répartir cette ressource qui est devenue une ressource disponible pour satisfaire les différents usages, pour l'amener au robinet.
Et les usages au robinet sont nombreux. Domestiques, bien sûr, mais aussi agricoles, industriels, ludiques. Sans parler de l'importance de l'eau pour le milieu naturel et la biodiversité.
Le rôle d'un certain nombre d'organismes, de sociétés, c'est de veiller à ce que, au même titre que les hommes, que les agriculteurs, que le tourisme, que l'industrie, le milieu naturel dispose de l'eau dont il a besoin pour que les organismes qui y vivent puissent perdurer, se développer normalement. Cette organisation repose sur à la fois des capacités de stockage complémentaires au stockage naturel, donc il faut construire des barrages, des retenues, des lacs, enfin voilà, on appelle ça comme on veut, pour pouvoir stocker l'eau quand elle est abondante et la restituer en période de sécheresse, ce qu'on appelle période d'étiage, en été. Donc il faut des ouvrages et il faut aussi, dans les territoires qui en ont le plus besoin, de la gestion. Il faut qu'il y ait des sociétés, des organismes, enfin des hommes et des femmes qui décident à un moment de mettre de l'eau dans une certaine quantité, à un certain endroit, pour satisfaire au maximum l'ensemble des besoins, des usages qu'on vient d'évoquer.
Mais alors, quand au milieu coule une rivière, ce n'est pas naturel, ce n'est pas spontané. Tout ça est voulu, organisé, décidé. Mais depuis quand? Et puis par qui?
À l'origine, l'État a beaucoup œuvré. Dans les années, fin des années 50, début des années 60, l'État a créé 6 sociétés qu'on appelle sociétés d'aménagement rural. On était à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et le souci de l'État est de participer au développement des territoires. Et le développement des territoires à certains endroits passait par le développement de systèmes hydrauliques pour permettre notamment à l'agriculture d'avoir accès à l'irrigation.
Vous voyez ces cailloux? Il y a 5 ans, c'était de la garrigue, un véritable désert ou presque. Et maintenant, grâce à l'eau, 50 hectares de vergers en bonne forme.
L'eau n'est pas venue ici toute seule. Elle n'est pas tombée du ciel. Il a fallu aller la chercher là où elle coulait en abondance, dans le Rhône. Depuis quelques 20 ans, des travaux gigantesques ont été poursuivis pour contraindre le grand fleuve à venir irriguer toute cette région du Baronne-Languedoc. L'an dernier, dans le seul département du Gard, 500 hectares de pêche spéciale pour la conserve ont fourni 15 000 tonnes de ses fruits. 15 000 hectares au total sont déjà consacrés aux arbres fruitiers. Cette mise en valeur provoque une véritable révolution agricole. Quelques années ont donc suffi pour donner à cette région, hier improductive, une nouvelle vocation agricole et industrielle. Le plus grave problème, celui de l'eau, étant résolu, cette évolution ne peut que s'accélérer dans un proche avenir. C'est pour la Rome française et pour bien d'autres cités du Midi, une véritable renaissance.
Et cette initiative de l'État a permis la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures qui ont maillé certains territoires qui étaient en fragilité. Aujourd'hui, on dispose de ces ouvrages, de ces infrastructures, pour gérer la ressource disponible, pas uniquement au bénéfice de l'agriculture, mais au bénéfice de la totalité des usages.
L'État a donc joué un rôle essentiel après-guerre pour financer et réaliser les infrastructures de stockage et de gestion de l'eau qui nous servent encore actuellement. Mais aujourd'hui, qui sont les acteurs chargés de garantir notre approvisionnement au robinet?
On a tendance, lorsqu'on parle de gestion de l'eau, à différencier ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau. Pour faire simple, le grand cycle de l'eau concerne la gestion de la ressource. Le petit cycle de l'eau va davantage concerner la distribution de l'eau et plus particulièrement auprès des particuliers. Sur le grand cycle de l'eau, on a assez peu d'opérateurs privés. Le grand cycle de l'eau, est un domaine sur lequel interviennent aujourd'hui des structures publiques ou parapubliques, les agences de l'eau en particulier, les services de l'État, et puis des opérateurs. Les sociétés d'aménagement rural dont je parlais tout à l'heure sont des opérateurs publics, et ces opérateurs publics participent à la gestion de la ressource et à la mise à disposition, on va dire, à l'accessibilité de cette ressource pour un certain nombre d'usages. Le petit cycle de l'eau, en revanche, est très investi par les opérateurs privés. On a tous les noms de ces grandes entreprises en tête, qui sont la plupart du temps chargées de distribuer l'eau, d'amener l'eau jusqu'au robinet, de la prélever, et aussi chargées de la traiter. Au regard des enjeux d'intérêt général, l'important est que la puissance publique garde la main sur le grand cycle de l'eau et la gestion de la ressource, et garde la main sur les outils d'accessibilité de la ressource. Voilà.
La répartition expliquée par Willy me paraît logique. Au service public, la responsabilité de la disponibilité de la ressource. Au secteur privé, celle de l'acheminer au robinet, en garantissant qu'elle soit propre à la consommation. Les débats périodiques sur la légitimité du secteur privé à prendre en charge une partie du cycle me paraissent donc un peu à côté de la plaque. L'enjeu aujourd'hui n'est-il pas surtout de garantir la disponibilité de la ressource pour que tout usage, sur n'importe quel point du territoire, puisse être satisfait malgré les effets liés au changement climatique ?
Si on veut gérer la disponibilité de la ressource, l'accessibilité de la ressource, il faut qu'on soit capable de stocker de l'eau là où c'est nécessaire, sur les territoires qui en ont besoin, stocker de l'eau en complément des solutions de stockage que nous offre la nature. Donc il faut effectivement des infrastructures, des lacs, des retenues, des barrages, des infrastructures de transport de cette eau aussi, des canaux, des réseaux, d'une part. Et d'autre part, les outils de gestion, c'est aussi... des choses qui vont permettre de gérer très finement, de gérer avec rigueur. Peu imagine le travail qu'il y a sur certains territoires au quotidien, qui est réalisé pour lâcher le mètre cube d'eau qui est nécessaire pour réalimenter tel cours d'eau à tel endroit, à tel moment, pour satisfaire tel usage. Et ça demande une intelligence qui repose sur des données, donc sur de l'instrumentation. Il faut qu'on connaisse précisément à de très nombreux points le débit des cours d'eau qu'on doit réalimenter, la disponibilité de la ressource dans les différentes retenues, qu'on ait une vision très éclairée sur la volumétrie des usages, enfin des besoins à satisfaire, combien l'agriculture va prélever, combien l'industriel va prélever, combien d'eau sera prélevée pour l'eau potable, etc. Et que on parvienne à résoudre cette équation assez complexe avec le plus de justesse possible, pour éviter évidemment que l'eau ne manque là où elle est nécessaire, mais aussi, voire surtout, pour éviter que l'eau soit gaspillée.
Gérer l'eau disponible se fait donc dans la dentelle. Mais qu'en est-il de l'évolution des infrastructures de récupération et de stockage de l'eau qui sont au point de départ de tout ce cycle ?
L'approche que nous avons aujourd'hui des infrastructures de stockage de l'eau est forcément très différente de celle qu'on avait il y a 50 ans. Enfin, il y a même encore 30 ou 40 ans. Parce que le changement climatique nous rappelle, si besoin en était, que nous allons vivre dans les années à venir des épisodes de sécheresse de manière beaucoup plus fréquente, que des problèmes d'accès à la ressource en eau vont se reproduire si on ne fait rien. Et donc, il faut qu'on agisse sur plusieurs plans, sur le plan de la sobriété, très certainement, sur le plan de la gestion, qu'on peut sans doute encore améliorer, mais aussi, surtout sur le plan des infrastructures, et notamment des infrastructures de stockage. Tout d'abord, il faut sans doute mieux exploiter les solutions que nous offre la nature. Les zones humides, ce sont des endroits comme une tourbière, par exemple, dans lesquels l'eau se stocke de manière naturelle et se relargue dans la nature, naturellement aussi, bien sûr, mais de manière très lente, très progressive. Et ça, c'est très intéressant. La recharge des nappes phréatiques, il y a des expérimentations qui ont été conduites là, ces derniers temps, consistant à réalimenter en période de forte précipitation, de forcer la réalimentation, en fait, de manière artificielle des nappes phréatiques.
Forcer la réalimentation des nappes phréatiques ? Mais concrètement, ça se passe comment ?
Oh ben là, on travaille avec des hydrogéologues qui nous indiquent certains endroits ou certaines cavités en fait, qu'on peut utiliser pour transvaser de l'eau qu'on pompe à un endroit, dans un ruisseau, dans une rivière, et l'envoyer à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres dans cette cavité qui elle-même va alimenter la nappe phréatique. Ce sont des choses qu'on a expérimentées l'hiver dernier. Et puis, la question du stockage, ou l'enjeu du stockage, évidemment, elle est aussi beaucoup autour des retenues artificielles. On en a beaucoup construit. On se rend compte aujourd'hui que sur certains territoires, ces infrastructures de stockage sont insuffisantes. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit déjà chercher à optimiser les infrastructures qui sont aujourd'hui en service. Il faudra aussi engager le recensement de toutes les retenues qui ont été créées depuis plusieurs décennies, mais qui ne sont plus utilisées. Il s'agit souvent de toutes petites retenues, ce qu'on appelle des retenues collinaires, qui sont alimentées de manière naturelle par les bassins versants, qui étaient parfois ou souvent même construites pour des besoins agricoles, mais l'abandon des exploitations a fait que ces retenues ont été abandonnées. Donc, se poser la question, après les avoir recensées, de la possibilité de remettre en service ces réserves d'eau et de les connecter à un cours d'eau. Enfin, il faudra sans doute se poser la question de la construction sur certains territoires de nouvelles retenues et de les réfléchir différemment de ce qu'on faisait par le passé, parce qu'un des enjeux dans l'avenir sera sans doute raisonner de manière pluriannuelle et donc de dimensionner des ouvrages de stockage pour satisfaire des besoins non pas de l'année, mais des besoins sur 2 ans ou 3 ans. Je ne sais pas à quel point les responsables politiques en ont la conscience, mais on est passé cette année en 2023 à deux doigts d'une situation dramatique. On est sorti d'une année 2022 très très sèche, d'un hiver 2022-2023 très sec, et jusqu'à la fin du mois d'avril, on était tous persuadés qu'on allait manquer de beaucoup d'eau pour l'été 2023. On a été sauvés par un épisode de pluie abondante à la fin du mois de mai et dans le courant du mois de juin. Mais si on n'avait pas eu ces précipitations, on aurait connu une situation totalement dramatique dans une grande partie des territoires français.
Oui, la catastrophe a été évitée de justesse. Sans les pluies abondantes de la fin du printemps, il était tout à fait envisageable que des villes aussi importantes que Perpignan n'aient plus d'eau au robinet. Et si l'on peut imaginer un approvisionnement ponctuel à coups de bouteille d'eau, comment faire pour alimenter des centaines de milliers d'habitants pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ? La réponse est simple. Ce n'est pas possible, et il aurait fallu évacuer la population. Autrement dit, enclencher une migration climatique au sein même de nos frontières. Ça paraît dingue, non ? Et pourtant, il s'en est fallu de bien peu pour que l'on passe de quelques villages coupés du robinet à des villes entières.
Car la France manque d'eau.
La situation à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent.
À quel point va-t-on manquer d'eau ?
Il n'y a pas eu assez de pluie cet hiver pour recharger les nappes phréatiques.
On a eu ici des cours d'eau qui se sont asséchés ces derniers étés.
Une terre sans eau, des réservoirs à moitié vides. Avec le réchauffement climatique, des sécheresses font leur apparition en hiver.
Et pourtant, ce village de Saint-Laurent-les-Églises a été ravitaillé en eau potable pendant 3 mois l'an dernier, jusqu'à la mi-décembre.
Le manque d'eau concerne déjà plus de 2 milliards d'êtres humains sur Terre.
Nous voyons que notre situation hydrologique et climatique ne s'améliore pas du tout.
Concrètement, vous craignez qu'il n'y ait pas suffisamment d'eau en cas d'arrivée de nouveaux habitants ?
Ah ben concrètement, on craint même qu'il n'y en ait pas assez pour ceux qui sont déjà là.
En 1974 déjà, René Dumont, candidat à la présidentielle, nous alertait.
Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
Alors, avec le changement climatique, ce risque de manquer sévèrement d'eau à des échelles inédites n'est-il pas renforcé ? Faire du stockage pluriannuel suffira-t-il ?
Il y a plusieurs choses à dire. Le changement climatique, c'est tout d'abord une élévation des températures. L'élévation des températures joue beaucoup sur l'enneigement. Et la neige dont on dispose en montagne fond de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus précoce. Ça pose un gros problème, c'est qu'on ne dispose plus de ce stockage naturel dès la fin du mois d'avril ou dès la mi-mai, comme on en disposait il y a quelques années. Ce qui veut dire que le manque de neige est responsable de l'abaissement qu'on constate déjà depuis très très longtemps et de manière régulière du débit naturel des rivières, notamment au printemps et en été. S'ajoute à ça la fonte des glaciers. Les glaciers participaient pour beaucoup à l'alimentation des cours d'eau. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de glace, donc de moins en moins de fonte, et donc de moins en moins d'alimentation de nos rivières au moment les plus chauds de l'année. La conséquence de ça, c'est que les rivières qui sont alimentées par la montagne ont des débits en été qui sont de plus en plus faibles, puisque notre constat, c'est qu'ils chutent en moyenne de 1 point tous les ans. Ce qu'on appelle l'hydraulicité naturelle des rivières a chuté en été de 30 points sur 30 ans. Et ce qui nous est annoncé par les prévisionnistes, eu égard au changement climatique, c'est la poursuite de cette tendance au moins jusqu'en 2050. Donc ça, c'est très problématique parce que on parlait de mobilisation de la ressource tout à l'heure, de ressources disponibles. La ressource disponible, c'est à la fois l'eau qui tombe, mais c'est aussi la ressource qu'on a dans nos rivières et qu'on a stockée dans nos retenues. Donc si nos rivières coulent beaucoup moins, évidemment, ça impacte très directement la disponibilité de la ressource. L'autre effet du changement climatique, malheureusement, c'est que parce qu'on a des températures qui sont beaucoup plus élevées, on a aussi des besoins qui sont plus importants. Les besoins domestiques, quand il fait chaud, ben, on a besoin à la maison de davantage d'eau pour s'hydrater, pour se rafraîchir, pour se laver, etc., etc. Des besoins plus importants aussi, évidemment, pour les plantes et pour les cultures. Quelques dixièmes de degrés supplémentaires, ça représente beaucoup de millions ou de milliards à l'échelle de la France de mètres cubes nécessaires supplémentaires pour faire pousser les cultures. Donc on a cette addition en fait de conséquences avec d'un côté des besoins qui sont plus importants parce qu'il fait plus chaud et de l'autre côté une ressource disponible qui diminue parce que précisément il fait plus chaud aussi et qu'on a des périodes de sécheresse qui sont beaucoup plus importantes. Donc évidemment, le problème ou l'enjeu qui est devant nous sera de trouver des solutions qui vont permettre de continuer à satisfaire autant que possible l'ensemble des usages avec une disponibilité de la ressource qui, en l'état actuel de nos infrastructures, sera forcément en diminution tous les ans.
Eh ben, on n'est pas sorti du sable !
Il y a un troisième effet du changement climatique dont on parle encore assez peu, mais qui est... auquel il faut beaucoup s'intéresser, c'est les effets sur la qualité de l'eau. Une température de l'eau qui augmente, c'est de l'eau qui est de moins bonne qualité. Quand sur la Garonne, on constate en plein mois d'août une eau qui dépasse à Toulouse les 26 ou 27 degrés, c'est forcément une eau qui sera normalement moins facilement utilisable pour certains usages. Donc on diminue aussi la quantité d'eau disponible si on a de l'eau qui n'est pas utilisable à cause de sa température. L'ARS fixe à 25 degrés le seuil de l'eau prélevable à des fins de consommation humaine. C'est-à-dire que normalement, au-dessus de 25 degrés, on ne devrait pas être autorisé à prélever de l'eau pour la distribuer dans les réseaux d'eau potable. Malgré tout, en 2022, il y a eu des dérogations qui ont été accordées à certains endroits, à certains moments, pour faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau au robinet.
Donc, si je résume, le changement climatique nous promet moins de précipitations, donc moins d'eau disponible, moins de neige et de glaciers, donc moins de stockage naturel, et plus de besoins à cause de l'élévation des températures. Sachant qu'en l'état actuel de nos infrastructures, une partie encore importante des précipitations s'évapore ou retourne à l'océan sans avoir pu être utilisée, comme le soulignait Willy au début de notre échange. Faut-il dès lors imaginer que demain, certains usages seront prioritaires sur les autres parce que tous ne pourront être satisfaits?
Il existe déjà des priorisations de l'eau. La priorité des priorités, c'est l'eau potable. En période de manque d'eau disponible, on donnera une priorité à l'eau potable au détriment des autres usages. Les deux premiers usages qui sont soumis aux restrictions, c'est d'une part les usages agricoles, Les agriculteurs sont bien souvent les premiers impactés par les restrictions qui sont mises en place. Et d'autre part, et en général, ça se fait de manière tout à fait concomitante, on abaisse ce qu'on appelle les débits d'objectifs d'étiage, c'est-à-dire le débit minimum qu'on doit maintenir dans certaines rivières pour satisfaire le milieu, enfin, les besoins du milieu naturel et de la biodiversité. Donc, lorsqu'on manque d'eau, on commence à priver un petit peu les agriculteurs, un petit peu le milieu naturel et la biodiversité pour réserver l'eau disponible aux ménages à des fins d'eau potable. Évidemment, en parallèle, souvent, il y a des arrêtés préfectoraux qui sont pris pour demander aux populations d'arrêter de remplir leurs piscines, de laver leurs véhicules, d'arroser leurs pelouses, etc. À certaines infrastructures aussi, certaines infrastructures de sport ou de loisirs, d'arrêter de consommer. La question, effectivement, que vous posez, et qui est tout à fait pertinente, c'est en parallèle des enjeux d'infrastructure et des enjeux de gestion, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de sobriété et comment on peut imaginer demain satisfaire tous les usages tout en consommant un petit peu moins.
Voilà.
Il y a deux types de consommateurs, on va dire, qui vont être plus particulièrement concernés. D'abord, les ménages. Il est indispensable dans les années qui arrivent qu'on impose à domicile un certain nombre d'équipements qui permettent de limiter la consommation d'eau du robinet, qui est de l'eau potable. Limiter les temps de douche, limiter la consommation des équipements électroménagers, sans doute généraliser autant que ce sera possible la récupération d'eau de pluie pour stocker de l'eau non traitée et l'utiliser à certaines fins, notamment pour arroser les pelouses, et pourquoi pas alimenter la chasse d'eau. Une fois que la maison est construite, c'est compliqué, mais sur les nouvelles constructions, il y a sans doute moyen de réorienter les modes de construction, sans doute généraliser aussi la récupération d'eau de pluie. Voilà, il y a des choses à faire côté particulier, et il y a aussi beaucoup de choses à faire côté agriculteur. L'agriculture a fait beaucoup de progrès ces dernières années en matière d'irrigation. Les agriculteurs sont très majoritairement des gens qui sont très consciencieux et qui sont beaucoup plus d'ailleurs que le reste de la population très consciente des enjeux parce qu'ils sont confrontés à ces enjeux-là. Malgré tout, il en reste beaucoup à faire dans l'agriculture. Ce sont des efforts qui vont concerner effectivement le choix d'assolement. Donc, est-ce qu'on continue cultiver autant le maïs et le soja ou est-ce qu'on ne réoriente pas nos cultures vers d'autres assolements.
Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien ? On en avait parlé avec Céline Carnero, l'agricultrice bio de l'épisode 15, qui me disait qu'en raison du manque d'eau, la culture du soja allait devenir très difficile.
Il y a une diminution très forte qui est observée de la culture du maïs, qui dans beaucoup d'endroits était majoritaire et qui ne l'est plus aujourd'hui. Non pas que le maïs consomme en réalité plus d'eau, mais le maïs a besoin d'eau à une période de l'année où on n'en dispose pas forcément. Donc, c'est déjà une tendance. Voilà, il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a aussi des progrès sans doute à faire en matière d'irrigation. Et puis, il y a aussi un choix, il y a sans doute une transition à poursuivre en faveur de ce qu'on appelle l'agroécologie ou l'agriculture de conservation, qui est une agriculture qu'on sait beaucoup moins consommatrice globalement de tout, moins consommatrice de phyto, moins consommatrice d'engrais, moins consommatrice de carburant parce qu'on fait moins fonctionner le tracteur et moins consommatrice aussi d'eau. Encore faut-il qu'on soit capable, le ONS et la société tout entière, qu'on soit capable d'accompagner les agriculteurs dans ces transformations, qu'on soit capable de les aider techniquement, de les aider peut-être financièrement aussi, à opérer ces transitions qui sont des transitions profondes.
Willy a raison. L'enjeu de l'eau dépasse largement le sujet de la transformation du modèle agricole en modèle agroécologique, même si les agriculteurs ont évidemment un rôle important à jouer pour une meilleure utilisation de la ressource. Souvenez-vous des épisodes 14 et 15 consacrés au sujet. Tous les usages de l'eau doivent donc être repensés pour être optimisés. Mais du côté du grand cycle de l'eau, c'est-à-dire de la captation et de la répartition de la ressource, les infrastructures et les organisations actuelles sont-elles adaptées ?
D'abord, il faut qu'on se réjouisse de tout ce qui a été fait, parce que si ça n'avait pas été fait, si tous les cette organisation, la gestion et les ouvrages qui ont été imaginés il y a quelques décennies ne l'avaient pas été, on serait dans une situation très critique. Est-ce que c'est suffisant pour l'avenir ? Certainement pas. Il faut que, sans doute, comme la France a été capable de le faire dans les années 60-70, qu'on se repose la question de notre modèle de gestion de l'eau, de nos besoins, de nos usages et des outils, des équipements, des infrastructures qui doivent accompagner cette transformation en complément de ce qui existe aujourd'hui. Il faut que les mentalités évoluent nécessairement. On croit beaucoup à l'investissement qui doit être fait en faveur des jeunes publics dans les écoles, dans les collèges, leur expliquer les enjeux liés à l'environnement d'une manière générale et plus particulièrement ceux liés à la ressource en eau. Moi, je crois que l'organisation administrative est adaptée, même si elle doit sans doute encore un petit peu évoluer en termes de gouvernance sur les territoires, mais que nos outils doivent encore beaucoup évoluer. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'on soit capable de ce qu'on appelle dans notre jargon de ralentir l'écoulement de l'eau vers l'océan. L'eau qui tombe du ciel et qui repart direct à l'océan, c'est par définition une eau qu'on ne capte pas et qui ne sera pas une ressource qui ne sera pas transformée en ressource disponible. L'enjeu pour nous, c'est de ralentir autant qu'on pourra le faire le retour vers la mer et vers l'océan, donc la stocker dans des stockages naturels, la stocker dans des stockages plus artificiels, satisfaire tous les usages qu'on peut satisfaire. Parmi les usages, d'ailleurs, j'ai pas évoqué tout à l'heure, la production d'énergie, d'électricité en particulier, qui est aussi un usage de l'eau avec l'hydroélectricité.
Ce barrage sert à alimenter les foyers en eau potable et à irriguer les cultures.
Mais si gigantesques turbines de KEM se transforment l'eau du Rhin en électricité, sauf qu'en ce moment, deux d'entre elles sont à l'arrêt forcé.
Ici, dans cette centrale hydroélectrique à Pierre-Bénite, 25% de production électrique en moins par rapport à un mois de juillet normal, conséquence d'un niveau du Rhône en baisse. La raison, un début d'année 2022 pauvre en précipitations.
Un débit au plus bas depuis le début des mesures il y a 75 ans.
Ici, la quantité d'eau disponible est en baisse de 50% sur l'ensemble de l'année.
Une situation très rare et inquiétante. Un sol craquelé, des bateaux échoués. Le lac de Montbel s'est transformé en paysage désertique.
Là, vous voyez, normalement, je dois avoir 5 à 8 mètres d'eau au-dessus de la tête.
Aujourd'hui, cet entraîneur de voile marche sur des bancs de sable à perte de vue.
À cause du réchauffement climatique, selon la CNR, le débit du Rhône pourrait chuter de 10 à 40% d'ici à 2050.
Le problème, on ne le réglera pas face à des épisodes de sécheresse beaucoup plus importants, beaucoup plus intenses et des températures qui vont encore augmenter. Le problème, on ne le réglera pas sans un travail très profond autour des solutions de stockage.
Mais quelles sont ces solutions de stockage ? Les projets récents, qu'il s'agisse de méga-bassines agricoles ou de retenues collinaires en montagne, ont suscité une levée de boucliers pour des motifs divers. Impact négatif des chantiers sur leur environnement, comme à la Clusaz, contestation de leur efficacité, comme pour les méga-bassines agricoles où l'eau s'évaporerait trop et trop vite, remise en question du partage de la ressource stockée et de son usage, qu'il s'agisse de faire tourner des canons à neige ou d'irriguer des champs. Et j'imagine assez mal que des projets de nouveaux barrages pourraient voir le jour sans entraîner immédiatement leur lot de recours et de manifestations. Alors, comment améliorer l'acceptabilité de ces projets souvent vitaux pour maintenir un territoire habitable ?
On pense que pour améliorer l'acceptabilité des projets de retenue d'eau, il faut respecter deux conditions. La première, c'est imaginer des ouvrages qui satisfassent ce qu'on appelle le multi-usage. Nous pensons que l'acceptabilité sera d'autant plus forte qu'on sera capable d'expliquer que l'ouvrage en question, que le projet qui est mené, il va servir à satisfaire les besoins humains, qui va servir à satisfaire les besoins de la nature et du milieu et de la biodiversité, qui va servir à satisfaire les besoins des agriculteurs et donc de la production alimentaire. Il va servir les besoins sans doute de l'industrie, il peut servir les besoins des loisirs, du tourisme, etc. Plus on sera capable de démontrer que le projet qu'on veut porter est un projet qui sert divers usages, et plus on augmentera son acceptabilité. Ça, c'est pour nous la première condition. Étant entendu que parfois, le caractère multi-usage des ouvrages de stockage peut être indirect. C'est-à-dire qu'on peut imaginer construire une retenue d'eau pour un usage particulier, mais dont les effets seront indirects sur d'autres usages. On peut construire une retenue, par exemple, pour l'agriculture. Et grâce à cette retenue, on va limiter les prélèvements agricoles, notamment dans les nappes ou dans les rivières en période d'été, ce qui va permettre de laisser davantage d'eau dans les rivières pour la biodiversité et le milieu naturel, ce qui va permettre le développement d'autres activités parce qu'il y aura de l'eau dans la rivière. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de bien concevoir et de bien démontrer l'intérêt, le bénéfice finalement de ces ouvrages-là pour des usages qui sont des usages transversaux et pas des usages particuliers. La deuxième condition, il nous semble qu'il faut absolument que ces ouvrages et que la gestion qui est associée demeurent dans le domaine public. Parce que c'est une sorte de garantie pour nous que les choses seront gérées selon les principes de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les choses ne tournent pas comme c'est prévu, l'ouvrage et l'eau qui sera stockée, ben, ça servira à l'usage qui aura été considéré comme prioritaire par la puissance publique qui en reste de manière directe ou indirecte gestionnaire.
Je suis bien d'accord avec Willy. Autant la distribution et l'épuration peuvent être déléguées, autant la maîtrise de la ressource et de sa disponibilité doivent rester à la main des pouvoirs publics, garants d'une utilisation conforme à l'intérêt général. Car sinon, dans un scénario futuriste assez facile à concevoir, on pourrait très bien avoir une ressource stockée et maîtrisée par des intérêts privés qui la vendraient au plus offrant. Je vous laisse imaginer les conséquences dramatiques. Maîtriser les infrastructures et les circuits de captation, stockage, alimentation d'une part, garantir le multi-usage de ces infrastructures et donc de la ressource en eau d'autre part, sont les conditions impératives à réunir pour faire évoluer nos capacités.
Il y aura forcément toujours, mais... Comme pour à peu près tous les projets, des gens qui ne seront pas favorables, peut-être même des gens qui vont s'opposer pour des raisons diverses. Voilà. Mais si on est capable de démontrer que le projet répond à un besoin qui relève de l'intérêt général, il nous semble qu'on se donne quand même beaucoup plus de chances de le réussir. Et ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, on a intérêt, tous ensemble autour de ces sujets-là, d'avoir des populations sachantes. Plus les populations ont la conscience, la connaissance de ces enjeux, et plus elles seront, me semble-t-il, à même d'accepter, voire d'accompagner et de porter des projets de cette nature-là qui seront indispensables pour la vie sur nos territoires. Si j'avais une baguette magique, je reviendrais à 50 ou 60 ans en arrière. Ça, ce serait quand même assez formidable. Qu'on ait toujours autant de neige, qu'on ait des glaciers dans nos montagnes, qu'on ait des épisodes de sécheresse beaucoup plus rares et surtout moins intenses qu'aujourd'hui, on se poserait beaucoup moins ces questions. Et quelque part, ça participerait aussi à une forme de paix sur nos territoires en France, mais aussi de paix dans le monde, parce que l'eau est sans doute le premier ou un des premiers sujets de migration, ça c'est sûr, de conflits, de guerres au travers le monde. Donc, de l'eau pour tous en quantité sous des formes différentes, ça c'est ce qu'il faudrait se souhaiter, et c'est à peu près ce que nous connaissions il y a un demi-siècle encore. Deuxième réponse que je veux vous faire, si on est un peu plus réaliste, parce qu'on ne fera pas machine arrière, le changement climatique est en marche, on le stoppera pas de sitôt. Il faut tout faire pour le ralentir, pour le freiner, pour en limiter les effets. Mais il faudra aussi envisager des solutions pour s'adapter à ce changement climatique. Et donc, dans le domaine de la ressource en eau, l'adaptation, c'est forcément transformer, on va dire, je reviens à vos éléments d'introduction, transformer toute la ressource qu'on a en France en ressource disponible, parce que malheureusement, l'absence d'eau, le manque d'eau, de la même manière que l'augmentation de la température, sont certainement les deux principales causes de disparition de certaines espèces. Et donc, il me semble que, même si ce n'est pas très naturel, si on avait une baguette magique, il faudrait qu'on soit capable d'accélérer le maillage de nos territoires en infrastructures qui permettraient de maintenir cette biodiversité et permettraient aussi aux territoires de continuer à vivre de manière à peu près normale, sans quoi, à terme, en France, et ce n'est pas qu'à l'étranger, ce n'est pas que dans les pays les plus secs. En France, on peut assister à des migrations de population, des gens qui vont quitter certains territoires parce que on ne sera plus capable de faire en sorte qu'il y ait encore de l'eau qui coule dans les rivières de ces territoires-là.
Quand je vous disais qu'on pourrait être amené à évacuer des villes entières faute d'eau, j'avais vu juste. Même si on n'en est pas encore là, les sécheresses récentes ont révélé la fragilité de notre approvisionnement en eau et la nécessité impérative de faire évoluer nos infrastructures de stockage autant que nos comportements. Cette eau, à laquelle nous accordons tellement peu de valeur qu'elle nous sert à tirer la chasse alors qu'on pourrait la boire, redevient un bien commun au centre des attentions dans les territoires les plus exposés. Et on en revient au constat récurrent de l'enquête. Nous devons changer notre vision de l'environnement qui nous entoure et notre rapport à cet environnement. Nous devons aussi regarder en face les scénarios d'évolution possibles, y compris les plus critiques, ceux qu'on ne veut pas voir, ceux qui nous dérangent trop. Car c'est seulement en les travaillant que nous serons capables d'anticiper suffisamment correctement et de faire évoluer, à la bonne échelle, les organisations et les outils qui nous permettent, aujourd'hui, de boire un verre d'eau à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.